Quand on commande un truc en ligne aujourd'hui, le niveau de contrôle qu'on a sur le monde physique est presque magique en fait.
Ouais, c'est clair. On a tout sur notre écran.
Exactement. On garde son téléphone, on voit le petit camion de livraison avancer sur une carte numérique, genre en temps réel. Il tourne à la bonne rue, à la minute près.
Tout est calculé par satellite, optimisé, hyper prévisible.
Voilà, c'est ça. Et paradoxalement, si ce fameux véhicule a, allez, 5 minutes de retard, bah on a une sorte d'impatience irrationnelle qui monte. Tout notre rapport à l'espace est vraiment dominé par cette exigence de prévisibilité.
C'est le triomphe absolu de la logistique moderne, quoi. Le besoin de contrôle humain a pratiquement éradiqué l'inconnu, du moins dans nos déplacements de routine. Se déplacer d'un point A à un point B, c'est devenu juste une transaction de temps.
Et c'est là que ça devient intéressant. Imaginons un instant qu'on efface cette petite carte numérique rassurante, qu'on remplace le livreur guidé par GPS par un immense navire en bois, ballotté par des vagues gigantesques.
Ah oui, l'angoisse totale.
C'est ça. Et à la place d'une appli d'optimisation, bah, la seule garantie de sécurité, c'est des vieux dictons de marin ou un oracle antique que te dit très calmement qu'il y a genre 20% de chances de mourir en route.
C'est terrifiant. Soudainement, se déplacer, c'est plus du tout une transaction, c'est un pari mortel. Le monde extérieur n'est plus maîtrisé, c'est une menace permanente.
Et c'est exactement dans ces eaux imprévisibles qu'on se lance pour notre plongée d'aujourd'hui. Notre mission, c'est vraiment d'explorer les dynamiques sociopolitiques, les prouesses nautiques et la réalité brute de la survie sous l'Empire romain.
Un vaste programme.
Ouais. Et pour ça, on s'appuie sur une source fascinante, une conférence historique ultra détaillée du docteur Craig Keener. Il analyse les chapitres 27 et 28 du Livre des Actes. Ça raconte le voyage hyper périlleux d'un prisonnier nommé Paul, parti de Judée pour rejoindre la capitale mondiale de l'époque, Rome.
Et il faut d'ailleurs préciser un truc super important sur notre source, avant de plonger dans le vif du sujet. Même si on parle d'un texte fondamental du christianisme naissant, notre approche aujourd'hui, elle est purement factuelle et archéologique.
Absolument, on ne prend pas parti.
Voilà, le but, c'est absolument pas de valider ou d'endosser une théologie quelconque, mais de lire ce document pour ce qu'il est vraiment. Un journal de bord maritime d'une précision inouïe. Ça nous offre une fenêtre documentaire exceptionnelle sur l'Antiquité.
Bon, décortiquons tout ça. Le tout premier obstacle, logique quand on lit ce récit, c'est de comprendre pourquoi quelqu'un de sensé accepterait de monter sur un bateau avec des probabilités de survie aussi catastrophiques.
Ouais, surtout que Paul avait déjà fait naufrage plusieurs fois, hein.
Mais grave, notre source le rappelle, il avait déjà failli mourir en mer avant même que cette histoire commence. Alors pourquoi s'infliger ça, surtout avec l'hiver qui approche, sachant que l'hiver, bah, ça fermait officiellement les routes maritimes, c'était suicidaire.
La réponse à cette folie, c'est un seul mot, l'économie. Mais attention, l'économie d'une urgence impérielle absolue. Rome, à cette époque, c'est une mégalopole monstrueuse qui ne produit pas du tout de quoi nourrir sa propre population.
Donc, il faut importer en masse.
Exactement. Pour éviter les émeutes de la faim, qui voulaient souvent dire la chute d'un empereur, il fallait un apport constant de blé, et ce blé, il venait surtout d'Égypte, le grand grenier de l'Empire. C'était tellement vital que l'empereur Claude avait carrément mis en place des primes de risque.
Des incitations financières pour braver les tempêtes hivernales. C'est l'équivalent antique de la livraison express à flux tendus, mais avec des vies humaines dans la balance, quoi.
C'est exactement ça.
On sacrifie la sécurité pour que le pain arrive à Rome et toucher le fameux bonus de l'empereur. Mais ce qui me choque dans les notes de notre source, c'est le cynisme total du montage financier derrière.
Oh bah la brutalité du système est là. Les propriétaires de ces énormes navires céréaliers, eux, ils prenaient pas la mer. Ils restaient bien au chaud sur la terre ferme.
Bien sûr, ils sont pas fous.
Ils utilisaient une sorte d'assurance antique très sophistiquée, des prêts à la grosse aventure. Des investisseurs avançaient l'argent. Si le bateau coulait, le propriétaire n'avait rien à rembourser. La perte était absorbée par les financiers, qui se rattrapaient avec des taux d'intérêt de dingue sur les voyages réussis. Comptablement, perdre un navire, c'était un risque couvert.
Donc le proprio risque ni son argent ni sa vie. Ceux qui payent le prix fort, c'est l'équipage et les passagers. Et il y a un monde fou sur ces bateaux. La source donne un chiffre hyper précis, 276 personnes sur le navire de Paul.
Ouais, et c'est même pas un record, hein. D'autres navires, comme le célèbre Isis, pouvaient transporter jusqu'à 600 personnes.
600? Mais attends, où est-ce qu'on y entasse tout ce monde?
La hiérarchie sociale romaine. Tout ce qui est sous le pont, la cale, c'est exclusivement pour le blé égyptien. C'est ça qui a de la valeur.
Donc les humains, dehors?
Exactement. Les 276 humains s'entassent sur le pont supérieur, exposés au vent, à la pluie, au froid glacial. Ils devaient même amener leur propre bouffe pour le trajet.
C'est rude.
Très rude. Et dans ce microcosme, les décisions de vie ou de mort sont prises par un petit groupe de 3 personnes, le propriétaire ou le capitaine, le navigateur et le centurion romain Julius. Et eux, obsédés par les primes et la pression d'arriver à temps, ils ignorent complètement les avertissements des marins de base.
Oui, une arrogance qu'ils vont payer très cher, très vite. Ils décident de quitter leur abri temporaire en Crète, un endroit appelé Beaufort, en espérant faire une courte traversée vers un meilleur mouillage.
La fameuse décision de trop.
Mais tellement, un vent cyclonique, que le texte appelle l'Eurocliton, s'abat sur eux depuis les montagnes. Et là, bam, le ton du récit change du tout au tout. C'est plus juste la peur d'une grosse tempête. La source insiste sur une panique géographique ultra spécifique. Ils sont terrifiés à l'idée d'être poussés vers le sud-ouest.
Oui, parce que le sud-ouest, ça les menait tout droit vers la Grande Syrte, sur les côtes libyennes actuelles. Pour les marins de l'Antiquité, c'était un trou noir, un cauchemar de bancs de sable mouvant.
Ah oui, le fameux cimetière marin.
Exactement. L'armée romaine se souvenait très bien d'une flotte entière qui s'y était échouée pendant les guerres contre Carthage. Les courants t'attirent dans des eaux de moins en moins profondes, tu t'enlises et les vagues disloquent lentement la coque en bois. Dériver vers la Syrte, c'était vraiment une lente agonie garantie.
L'enfer. On sent le désespoir s'installer. Du coup, ils commencent à balancer la cargaison de blé par-dessus bord pour alléger le navire. J'imagine très bien la scène, une chaîne humaine frénétique, des gars épuisés qui remontent des sacs de la cale inondés pour les jeter dans les vagues.
Dans le noir total en plus.
Ouais, la source dit que pendant plusieurs jours, ils voient ni le soleil ni les étoiles. Navigation à l'aveugle. Et finalement, en pleine nuit, ils entendent les vagues se briser sur des rochers. Ils jettent 4 ancres à l'arrière pour freiner et ils commencent à sonder la profondeur avec des poids.
Des sondages très précis d'ailleurs.
Et c'est là que j'ai eu un doute en lisant. D'un point de vue pratique, si l'auteur du texte, Luc, est au milieu de ce chaos sur un bateau inondé qui se casse en morceaux, comment ses notes ont survécu? L'encre sur du papyrus avec l'eau salée, ça fond instantanément.
Ce qui est fascinant ici, c'est comment la technologie du quotidien antique réglait des problèmes extrêmes. C'est clair qu'un bout de papyrus plié dans une poche n'aurait pas survécu. Les voyageurs utilisaient parfois du vélin, une peau d'animal, beaucoup plus solide.
Ok, le vélin, logique.
Mais la vraie astuce, confirmée par l'archéologie, c'est les amphores. Ces navires en étaient remplis pour le vin ou l'huile, c'était parfaitement étanche. Tu glisses ton manuscrit dedans, tu scelles avec un bouchon de liège et de la poix, et boum.
Une capsule de survie pour documents. Une clé USB antique indestructible en céramique.
C'est tout à fait ça. Et heureusement qu'il a fait ça, parce que les détails du texte sont dingues. La source raconte qu'au 19e siècle, un marin, James Smith, et des archéologues, plus tard, ont vérifié ces données. La dérive depuis l'île de Koda, la vitesse du vent, les sondages de profondeur de cette fameuse nuit, tout correspond mathématiquement à un seul endroit.
La baie de Saint-Paul, la Malte. Le texte se transforme en relevé topographique. C'est fou.
C'est ce côté hyper empirique qui rend ce document si précieux historiquement. Mais au-delà de la carte, ce qui se passe sur ce bateau en train de couler, c'est l'effondrement spectaculaire de la hiérarchie sociale dont on parlait.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le navire est ancré, ballotté par des vagues énormes, à quelques mètres des récifs mortels. Et là, les marins pros, ceux qui doivent sauver tout le monde, bah, ils paniquent. Ils font semblant d'aller jeter des ancres à l'avant, mais en vrai, ils descendent le canot de sauvetage en cachette.
La mutinerie silencieuse. Ils veulent laisser les passagers crever.
Exactement. Et qui grille leur plan A. Paul, le prisonnier, le gars qu'on avait superbement ignoré quelques semaines plus tôt, prend soudainement le contrôle stratégique.
Un retournement de situation magistral. Paul comprend un truc vital. Si les marins s'enfuient, personne n'aura l'expertise technique pour échouer le navire correctement le matin. Il va direct voir le centurion romain et lui dit, en gros, si eux partent, on est tous morts.
Et la réaction de l'armée romaine, c'est du brutal. Les soldats sortent les épées, tranchent les cordes du canot de sauvetage et le laissent dériver dans le noir. C'est d'une violence psychologique folle.
C'est radical. Ils coupent littéralement l'option de l'égoïsme. Maintenant, c'est la survie collective grâce à la coopération ou la mort pour tout le monde.
Sauf que, ironiquement, cette même logique militaire romaine montre un visage terrifiant au petit matin. Quand il fait jour et qu'il faut abandonner l'épave, le premier réflexe des soldats, c'est pas d'aider les passagers. C'est de vouloir exécuter froidement tous les prisonniers sur le pont. Pourquoi ce réflexe de massacre préventif?
C'est la dureté implacable du droit militaire romain, en fait. La loi disait que si un garde laissait échapper un prisonnier, il devait subir la peine prévue pour ce prisonnier.
Ah oui! Genre la règne ou la crucifixion.
Voilà. Et dans un naufrage, avec des gens qui nagent dans tous les sens vers la côte, les évasions sont inévitables. Donc, pour les soldats, tuer les prisonniers, c'est juste de la rationalité administrative. C'est protéger leur propre vie face au tribunal militaire.
Glaçant. L'administration jusqu'à la mort. Mais le centurion Julius, qui veut sauver Paul, met son veto et il ordonne d'y aller. Ceux qui savent nager sautent, les autres s'accrochent à des planches. Et le miracle statistique se produit. Les 276 personnes arrivent vivantes sur la plage de Malte.
Tous sains et saufs.
Ouais. Et sur cette plage, trempés, il y a un choc culturel génial. La source dit qu'ils sont accueillis par des barbares. Mais attention, il faut clarifier ce mot.
Oui, le sens a vachement changé. Pour un gréco-romain de l'époque, un barbare, c'est pas un sauvage violent. C'est juste un mot onomatopéique. Ça vient de bar-bar-bar. Ça décrivait le babillage des gens qui parlaient ni grec ni latin, quoi.
Une barrière de langue, tout simplement.
Exactement. À Malte, ils parlaient sans doute un dialecte punique, un reste de la colonisation carthaginoise.
Et ces locaux sont hyper accueillants. Il pleut à verse, les naufragés sont en hypothermie et les Maltais allument un immense feu de joie pour eux. Mais bon, le soulagement dure 2 secondes. Paul ramasse du bois et une vipère, réveillée par la chaleur, le mord à la main.
La poisse totale.
C'est clair. Et la réaction des locaux est immédiate. Tribunal populaire direct. Ils se disent, bon, le gars a survécu à la mer, mais la justice divine, la déesse Dike, le punit par ce serpent. C'est la preuve cosmique que c'est un meurtrier.
Si on relie ça à la situation dans son ensemble, la psychologie des foules est vraiment fascinante. Survivre à un naufrage dans l'Antiquité, ça faisait pas de toi un héros, t'étais suspect. Si le bateau a coulé, c'est que quelqu'un avait mis les dieux en colère.
Ah, donc le serpent vient juste confirmer leurs soupçons.
Voilà, la superstition faisait déjà son travail.
Sauf que là, c'est comme dans un film. Paul panique pas du tout. Il secoue la main, le serpent tombe dans le feu et il attend. Il gonfle pas, il meurt pas. Et là, le balancier psychologique part dans l'autre sens à une vitesse folle. En quelques secondes, il passe de « c'est un meurtrier maudit » à « c'est un dieu immortel ».
Le revirement total.
Et ça, ça me fascine parce que c'est l'ancêtre exact de nos comportements sur les réseaux sociaux. On fait une condamnation publique instantanée, basée sur un a priori moral, et juste après, sur un nouveau micro-détail, la même foule annule tout et idolâtre la personne. Aucune nuance, juste de l'extrême, basée sur des infos incomplètes.
La nature humaine change pas des masses en 2000 ans. Hein. Et d'ailleurs, petite parenthèse écologique marrante, dans la source, si on cherche des vipères à Malte aujourd'hui, on n'en trouvera pas.
Ah, bon.
Elles ont disparu.
Ouais.
C'est historique. 2 millénaires d'agriculture, de déforestation et d'urbanisation sur une petite île, ça a complètement détruit leur écosystème. Mais pour revenir à l'histoire, l'ironie est forte. Paul a discuté avec l'élite intellectuelle d'Athènes, les chefs religieux de Jérusalem, mais au final, c'est chez ces fameux insulaires barbares qu'il trouve l'hospitalité la plus vraie.
Et il va même soigner le père de Publius, le gouverneur romain local, qui souffrait de fièvre et de dysenterie. Sûrement le paludisme selon les symptômes.
Un vrai coup de maître diplomatique.
Ouais, mais bon, la machine romaine ne s'arrête pas. Au printemps, la navigation reprend. Ils embarquent sur un navire alexandrin, les Dioscures, direction Rome. Et l'arrivée à Rome, ça casse le mythe du glamour. J'ai vu dans les notes que la configuration de la ville, c'était le monde à l'envers par rapport à nous.
Rome, à ce moment-là, c'est un monstre urbain étouffant. 1 million d'habitants. Et contrairement à nous, où le luxe, c'est le grand penthouse au dernier étage, l'immobilier romain, les insulés, fonctionnait à l'envers. Plus tu es riche, plus tu vis au rez-de-chaussée.
Ah ouais, donc le prestige, c'est d'être en bas.
Exactement. Les rez-de-chaussée étaient spacieux, construits en pierre et surtout connectés à l'eau courante des aqueducs. Et l'autre énorme avantage, c'était l'évacuation immédiate en cas de problème.
Les incendies, j'imagine. Hein, c'était le grand fléau.
Le prédateur urbain absolu. Au-dessus de ces socles en pierre, on empilait des étages en bois, de plus en plus étroits et fragiles. Plus tu montais, plus c'était pauvre et suffocant. C'est dans ce labyrinthe vertical oppressant, dans les couloirs de ces immeubles, que les premières églises de maisons devaient se réunir en secret.
Et la dynamique de ces communautés est hyper intrigante. La source parle d'une population juive énorme à Rome, genre 40 à 50 000 personnes, 5% de la ville. Surtout des travailleurs pauvres regroupés dans le quartier du Trastevère. Mais le truc fou, c'est qu'ils n'avaient aucune autorité centrale. Pas de grande synagogue unifiée. Pourquoi choisir de rester autant divisé?
Ah mais c'était pas du tout un choix romain, c'était de la pure survie face à la paranoïa de l'empereur. Rome interdisait formellement toute hiérarchie centrale dans la population.
Pour éviter les complots.
Exactement. La seule organisation structurée autorisée, c'était la garde prétorienne, l'armée de l'empereur. Permettre à 50 000 personnes de s'unir, c'était le risque d'une rébellion. L'empereur Claude avait d'ailleurs violemment expulsé les leaders judéo-chrétiens en 49 après Jésus-Christ, parce qu'il y avait eu des tensions.
Et ils n'ont pu revenir qu'à sa mort, en 54. D'ailleurs, la mort de Claude, c'est le parfait exemple de l'ambiance toxique au sommet de l'État. C'est un thriller politique en permanence. Le pouvoir, ça se gagne pas par la politique, ça se gagne par la biochimie.
Et les empoisonnements, la grande tradition romaine.
Mais carrément. Agrippine, la mère de Néron, commence par essayer d'empoisonner Claude avec un plat de champignons.
C'est une plume trempée dans un poison fulgurant au fond de la gorge.
C'est glaçant. Et pour être sûr que le jeune Néron prenne le trône, ils liquident le vrai héritier, Britannicus. Ils empoisonnent l'eau froide qu'on utilise pour couper son vin chaud. Comme ça, ils esquivent le goûteur officiel. Alors, la question évidente avec tout ce carnage au sommet, c'est comment l'arrivée de Paul s'imbrique là-dedans?
En fait, toute cette violence nous aide à comprendre la petite fenêtre de paix dans laquelle Paul arrive. À ce moment précis, Néron est encore très jeune. Il n'a pas encore sombré dans sa fameuse folie meurtrière.
Il est encore sous bonne influence, non?
C'est ça. L'administration est tenue par le philosophe Sénèque et par Burrus, le chef pragmatique de la garde prétorienne. La machine de l'État est brutale, certes, mais rationnelle. C'est seulement plus tard, quand Tigellin prendra de l'influence, que Néron commencera à brûler vif des chrétiens en 64.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire pour notre prisonnier? Le texte décrit son arrivée avec le vocabulaire d'une entrée triomphale sur la Via Appia, comme un général romain. Et après, c'est le grand paradoxe. C'est un prisonnier d'État, mais on l'autorise à louer ses propres appartements pendant 2 ans.
Avec une chaîne au poignet, quand même.
Oui, enchaîné à un membre de l'élite de la garde prétorienne, d'accord. Mais il invite les leaders religieux, il lance de grands débats théologiques, il cite même le prophète Ésaïe sur l'endurcissement spirituel. Comment une telle liberté d'expression est possible sous une dictature pareille?
Cela soulève une question super importante sur l'inertie bureaucratique. L'administration romaine était super efficace, mais elle détestait perdre son temps. Les rapports de Judée présentaient sûrement l'affaire comme une obscure querelle religieuse locale. Aucun danger pour l'État.
Et le centurion Julius a dû jouer un rôle, non?
Ah bah complètement. Après avoir vu Paul sauver le bateau à Malte, Julius a dû écrire un rapport militaire dithyrambique. Bilan, les magistrats romains ne voyaient aucune urgence à faire un procès. Surtout que les accusateurs en Judée n'avaient pas trop envie de se taper le voyage jusqu'à Rome pour un dossier aussi faible. Paul est libre parce que son dossier traîne en bas de la pile, tout simplement.
La fameuse inertie. Mais bon, on sait que cette liberté est tragiquement temporaire. Ce petit salon où il prêche tranquillement, c'est l'œil du cyclone.
Tout à fait. La tradition historique, en dehors du texte, nous dit que cette clémence administrative s'est violemment terminée quand Sénèque et Burrus ont perdu le pouvoir. Fini l'appartement. La légende veut que Paul ait fini dans la prison Mamertine, un cachot souterrain atroce, avant d'être décapité.
Et l'apôtre Pierre, pareil? La tradition dit qu'il a été crucifié la tête en bas à Rome.
C'est ça. La résidence surveillée sans pas du texte, c'était juste un sursis avant le réveil du monstre impérial.
En prenant un peu de recul sur toute cette analyse, la trajectoire géographique du voyage est folle. Partir de l'Orient pour aller vers l'Occident, c'est un basculement idéologique majeur. On part d'un héritage intellectuel très ancré au Moyen-Orient pour aller vers une mission qui va devenir mondiale. Rome, c'est pas la ligne d'arrivée, c'est le mégaphone de l'Antiquité.
C'est le point de départ d'une onde de choc.
Exactement. Ça va irradier l'Europe, l'Afrique, l'Asie à travers les siècles.
C'est le grand paradoxe de l'histoire que cette source révèle. Les infrastructures de l'Empire romain, les routes marines, les voies pavées, elles étaient faites pour les armées et le blé, pour asseoir une domination violente. Et finalement, c'est devenu l'outil logistique qui a propagé la pensée, qui a transformé cet empire de l'intérieur.
C'est beau. Et c'est justement ce qui rend la toute fin du texte source si perturbante. 28 chapitres de procès, d'émeutes, de naufrages apocalyptiques, et le récit s'arrête net. Paul est dans son appartement depuis 2 ans, fin de l'histoire.
Pas de procès, pas de verdict de Néron, rien.
Une fin totalement ouverte, en plein suspens.
Un silence assourdissant, hein ? Ça brise tous les codes narratifs. Ne pas raconter la fin du héros principal, c'est un choix éditorial super audacieux.
Et ça nous amène à une ultime réflexion. Pourquoi terminer une épopée historique sur un tel point d'interrogation? Si ce récit, qui a quand même façonné une partie du monde, refuse d'écrire son propre chapitre final, c'est peut-être un message direct pour celui qui le lit.
Un appel à l'action?
Je pense, oui.
En laissant l'histoire inachevée, l'auteur force celui qui explore ce texte à réaliser qu'il ne peut pas juste rester un spectateur passif en train de regarder un vieux naufrage. Si l'intrigue n'est pas bouclée, ça veut dire que l'histoire continue et que c'est à ceux qui l'écoutent aujourd'hui d'en écrire la suite par leurs propres actions.